Sophie déteste les huîtres, même si elle adore leur odeur iodée. Sophie aime flâner en vélo, et son mot favori, c'est l'audace. Sophie adore lire, la papeterie et écrire. Sophie est une inspiratrice, même si c'est encore du bout des lèvres qu'elle ose le dire. Sophie a créé les Jolis Cahiers, une marque de papeterie pour créer vos cahiers personnalisés et made in France, s'il vous plaît. Sophie, je l'ai rencontrée il y a environ 2 ans à mon arrivée à Nantes. J'ai tout de suite été inspirée par son histoire, sa détermination, sa joie de vivre et sa générosité à transmettre et parler vrai. Le tout avec une grande humilité. C'est exactement ce qu'elle fait avec nous dans ce deuxième épisode de Créez-moi sur parole, le podcast qui dépoussière, démystifie et articule spiritualité et créativité. Alors c'est parti, décrochez vos ceintures, ouvrez grand votre cœur et vous écoutez. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Sophie!
Bonjour Nathalie.
Comment ça va?
Bah écoute, ça va très bien. Je suis très heureuse d'être avec toi ce matin.
Et moi, ravie d'être ici. Donc on est au cœur de Nantes, dans les locaux des Jolis Cahiers. Je vais commencer par la première question, Sophie. Qui es-tu? Que crées-tu? Et quel lien fais-tu entre justement ce que tu es et ce que tu crées?
Alors là, tu m'envoies sur un sujet sans mise en jambe, sans échauffement. La petite question anodine, qui es-tu? Effectivement, c'est pas une question simple. Enfin, pour moi, elle peut paraître simple, cette question, parce que je peux te répondre, bah, je suis Sophie Péan, j'ai 48 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants de 15 et 18 ans, et je suis la créatrice et la fondatrice des Jolis Cahiers. Mais en réalité, quand je te réponds ça, j'ai le sentiment d'éluder ta question. C'est-à-dire que, en fait... Ce que je viens de te dire, c'est presque plus une fiche d'identité, une étiquette sociale, en fait, enfin, qui me positionne comme une pièce dans un jeu d'échecs, par exemple. Mais finalement, est-ce que je réponds à la question « Qui es-tu, Sophie ?» Et je ne crois pas vraiment. Si je veux répondre honnêtement et sincèrement à cette question... Je pense que qui je suis, c'est plutôt lié à mon corps, mes pensées, mes émotions, ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Voilà, pour moi, le qui je suis, c'est ça. Alors, c'est du coup beaucoup plus égocentré. Donc, je peux te dire, je suis grande, j'ai les cheveux châtains, j'ai les yeux marrons. Très foncé, j'aime faire du vélo, je déteste les huîtres, mais j'adore le rôdeur iodé, voilà, je suis curieuse, j'aime lire, j'aime écrire, ah oui, une chose importante, mon mot préféré est audace.
Ah, j'aime.
Et là, j'ai le sentiment, quand je te dis ça, alors je vais pas te décrire qui je suis pendant 3 heures, mais là, j'ai le sentiment que je te parle de moi, plus que quand je te donne ma fiche d'identité sociale.
Bah, c'est tout l'objet de ce podcast, justement. Merci de jouer ce jeu. Et du coup, tu l'as un petit peu abordé. Que crées-tu, Sophie, aujourd'hui? Quelle créatrice es-tu? Et quel lien tu fais entre justement ce que tu viens de dire de toi et cette création?
Alors, qu'est-ce que je crée? Ça, c'est aussi une grande question. Si tu me l'avais posée il y a quelques années, je t'aurais répondu « je ne crée rien du tout ». Parce que pour moi, la création, c'était être artiste, en fait. Mmh. Et ça, je ne le suis pas, je ne l'ai jamais été, et je pense que je ne le serai jamais. Mais... ça, c'était avant. j'ai pris conscience. C'était avant parce que, à l'époque, j'avais pas ce niveau, justement, d'ouverture à ce sujet sur ce qu'était vraiment la création. Et en fait, aujourd'hui, pour moi, qu'est-ce que je crée? Bah, c'est d'abord juste ma vie. Parce que créer quelque chose, c'est intéressant parce que le sujet de ton podcast, je suis allée rechercher l'étymologie du mot, parce qu'il faut toujours en revenir à la base des choses. Donc, créer, c'est donner existence à quelque chose par une action volontaire. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Ma première création, c'est ma vie, en fait. Enfin, maintenant, c'est cette conscience-là que j'ai. Donc, je crée ma vie, la vie que j'ai envie de me créer, mais ça, je pense qu'on y reviendra, enfin. Évidemment, je peux te dire aussi que j'ai créé une entreprise. Et c'est vrai, et on utilise le même mot. Alors, cette entreprise, je ne l'ai pas créée pour avoir un statut, un cabis, devenir riche ou sauver le monde. Je l'ai créée justement parce que c'est le moyen que j'ai trouvé pour exprimer ma singularité, mes valeurs, ce qui a du sens pour moi. Et c'est la voie que j'ai trouvée pour ça. J'aurais pu choisir de créer autre chose, mais en tout cas, dans le prolongement de cette création de vie, en tout cas de la vie que j'avais envie de me créer, c'est le moyen que j'ai trouvé. Et cette création d'entreprise, c'est pas uniquement pour vendre des produits physiques, c'est parce que j'avais envie aussi de transmettre quelque chose.
Et comment elle est née, cette envie de créer ? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que justement tu en arrives à créer cette entreprise et quelque chose qui, bon, moi je le sais, te ressemble, clairement ?
Oui, alors c'est vrai qu'avec les jolis cahiers, j'ai justement réussi à aligner ma singularité et ma vie professionnelle. Et ça, c'est vrai que c'est assez intéressant. Alors, l'envie de créer, je pense, en ayant analysé et pensé un petit peu à tout ça depuis quelques années, je pense que je l'ai depuis toujours au fond de moi. En fait, elle existait, elle était là. Simplement, j'avais décidé de faire d'autres choix de vie. Et je dis vraiment j'avais décidé parce que c'était pas quelque chose de douloureux ou de subi. J'ai, tout au long de ma vie personnelle ou professionnelle, fait des choix en conscience, voilà, des choses que j'ai arbitrées moi-même et qui me semblaient, au moment où je faisais ces choix, les plus cohérents, les plus en rapport avec ce à quoi j'aspirais. En fait, je crois tout simplement que la part de moi qui avait envie de créer, elle n'avait pas voix au chapitre. C'est-à-dire qu'il y a une formule qui m'est venue un jour, elle n'était pas dans mon comité de direction intérieure, elle n'était pas autour de la table.
J'adore.
Et un jour, je ne sais pas pourquoi, enfin, si, je pourrais peut-être aller chercher pourquoi, mais un jour, cette part de moi, soit elle s'est invitée, c'est-à-dire qu'elle a un peu forcé la porte, ou alors je l'ai invitée inconsciemment, je ne sais pas.
Tu l'as autorisée.
Je l'ai autorisée, voilà. Et j'ai commencé à l'entendre et j'ai surtout commencé à l'écouter et à prendre en compte, effectivement, cette sensation, ce sentiment, cette intuition. Alors, c'était dans l'objectif, mais en fait, c'est pas du tout ça, parce que j'étais pas du tout dans un cheminement conscient, en fait. C'était pas du tout un objectif que j'avais, conscientisé. En fait, c'était la volonté d'être moi, qui je suis vraiment. Et on en revient à ta première question, qui suis-je ? Et en fait, comment j'ai identifié, en fait, cette envie de créer ? C'était il y a environ 5 ans et j'ai fait cette démarche seule parce qu'il faut aussi se replacer dans le contexte d'il y a 5 ans, la quête de soi, la quête de sens, c'était pas aussi présent, c'était pas aussi ouvertement évoqué, il n'y avait pas toutes les ressources qu'il y a aujourd'hui, que ça soit des livres, des podcasts, des coachs, tout ce que tu veux qui peuvent t'accompagner. Donc moi, ce chemin, je l'ai fait seul par de la lecture et beaucoup d'écriture.
Le fameux sujet.
Voilà. Et en fait, c'est de l'introspection personnelle que j'ai réalisé, mais comme Monsieur Jourdain dans Le Bourgeois Gentilhomme, sans vraiment en avoir conscience. J'étais vraiment pas dans une démarche consciente. Et cette démarche, elle est venue à la fois parce que j'ai écouté cette fameuse petite voix intérieure, et puis parce que j'ai eu un pépin de santé qui m'a un petit peu, qui a rebattu les cartes et qui m'a entraînée sur cette voie-là. Alors là, je te parle de ça en 3 minutes, mais en réalité, ça a pris 2 ans quand même. Et il y a un point d'orgue en fait dans toute cette période dans laquelle j'ai beaucoup réfléchi, écrit. C'est un exercice d'écriture en particulier qui est absolument mais anodin, enfin qui semble extrêmement anodin, voire presque enfantin, voire presque inutile. J'ai commencé à écrire la liste de ce que j'aimais dans la vie. Alors non, enfin de façon très honnête, très naturelle, très spontanée, justement sans trop réfléchir, non pas avec là encore un objectif ou une idée en tête, simplement pour renouer avec ce que j'avais de meilleur dans ma vie. Et j'ai écrit 100, 120 lignes, et quelques temps après, je suis retournée lire tout ce que j'avais écrit, et je continue à remplir cette liste aujourd'hui, 5 ans après. Et il y a 2 choses qui m'ont sauté aux yeux. J'avais écrit 2 lignes, l'une en dessous de l'autre. Il y avait un moment... J'avais indiqué « j'aime lire » et en dessous « j'adore écrire ». Et pas très loin, il y avait « j'aime la papeterie ». Et je ne sais pas pourquoi ce jour-là, il y a quelque chose qui s'est cristallisé et je me suis dit « je vais faire quelque chose avec ça ». Et alors là, on était encore très loin de l'idée des jolis cahiers. Hein.
Waouh, c'était il y a combien de temps ça alors ?
Ça, c'était en 2016, donc c'était il y a 4 ans.
En 2016, et donc ouais. les jolis cahiers sont nés
en... Il y a 2 ans quasiment, jour pour jour aujourd'hui, ouais, ouais, 2018. D'accord. Donc il m'a encore fallu 2 ans. C'est un process qui a été long. Peut-être que pour d'autres, il est plus rapide. En tout cas, moi, ça a été mon chemin.
Ça a été le tien.
Ouais.
Ouais, super intéressant d'effectivement replacer ça et de dire... aux gens que oui, ça s'inscrit dans le temps et qu'il y a différents moments de prise de conscience. J'aime bien cette idée de ton comité de direction dans ta tête. Et il y en a un qui tout à coup s'est invité ou t'as autorisé à laisser parler peut-être. Et puis tous ces jalons, cette idée aussi de lister avec beaucoup d'authenticité ce qu'on aime, c'est vraiment, c'est tout simplement ça. C'est tout bête comme tu dis, mais en fait, c'est très puissant. Merci pour ce petit truc.
Oui, alors peut-être pour certaines personnes, ça ne marche pas. Voilà, moi, j'ai vraiment repéré, comme tu dis, que ça a été un moment jalon. Et l'autre moment jalon, quand j'ai commencé à avoir l'idée des jolis cahiers, c'est que là, je n'avais pas dans l'esprit de créer uniquement... une marque de papeterie et de vendre des cahiers, mais c'était l'envie vraiment de partager ce que l'écriture m'avait apporté et m'apporte et m'apportera encore, et surtout de donner envie à d'autres femmes, j'ai envie de dire, parce que voilà, moi je me sens plutôt en connexion et en résonance avec un public féminin, mais voilà, si ça donne envie à des hommes aussi, il n'y a pas de problème.
Aussi, ils ne sont pas exclus, mais c'est voilà, les femmes t'inspirent.
De leur donner cette envie d'écrire, tout simplement parce que, au bout du bout, cette envie d'écrire et ce passage à l'acte, moi, m'a donné l'audace d'être moi.
Justement, je trouve ça intéressant de creuser un tout petit peu sur l'écriture, parce que je sais que c'est vraiment quelque chose de cher à ton cœur, tu viens d'en parler. Qu'est-ce qui, pour toi, dans l'écriture, est si, je vais pas trouver le bon mot, mais si porteur, en fait?
Alors, pour te prendre une autre métaphore, pour moi, l'écriture, c'est justement la salle de sport de ma créativité.
Pas mal.
C'est-à-dire que ça me permet de muscler à la fois ma connaissance de moi. Donc, on en revient toujours à cette question essentielle de la connaissance de soi. Mais, et là, je fais un pont vers l'autre sujet de ton podcast qui est la spiritualité. Alors, je vais te dire tout de suite pourquoi je fais ce lien, parce que c'est important. La spiritualité, je crois que tu le dis dans la présentation de ton podcast, c'est souvent entendu dans notre société comme quelque chose qui a trait aux religieux. Moi, c'est absolument pas mon cas. Et d'ailleurs, quand tu m'as proposé de parler de ça, c'est vrai qu'il y a toujours un moment de pas de recul, mais de questionnement, parce que la spiritualité, pour moi, c'est quelque chose qui est lié à mon intériorité. Et donc, ça veut dire parler de ce sujet, ça veut dire dévoiler, se dévoiler sur ces sujets-là. Et c'est pas que c'est gênant en soi, mais c'est pas forcément très coutumier, quoi.
Et merci de le faire.
Et donc, j'en reviens à mon histoire de salle de sport. L'écriture, alors la façon dont je la pratique, et encore une fois, c'est mon vécu, mon chemin, mon expérience, ça n'a pas valeur d'exemple, ça a juste valeur de témoignage. J'ai commencé par écrire beaucoup le matin et je continue toujours vers 6h30. La première chose que je fais, sans me lever, vraiment, mais ça, j'en reparlerai tout à l'heure d'où j'ai tiré cette pratique qui est très, très connue, hein, j'ai rien inventé. C'est vraiment un exercice, au-delà de l'exercice d'écriture, de connexion à soi, de connexion à ses pensées, de connexion à ses émotions. C'est pas simple au début. On a l'impression qu'on a un grand vide dans la tête. Et évidemment, et c'est pour ça que je parle de... Je fais l'allusion à la salle de sport ou à n'importe quelle pratique sportive. C'est que tu cours pas un marathon quand tu chausses des baskets pour la première fois. Je veux dire, t'as un temps d'entraînement, t'as une hygiène de vie, t'as plein de choses, t'as des conseils. Moi, c'est pareil avec l'écriture. Tout ça, c'est pas venu en un clin d'œil et c'était parti. Mais le fait de faire cette écriture du matin, plus plein d'autres routines d'écriture que j'ai, ça m'apprend à me connecter, à aller chercher ce que j'ai à l'intérieur de moi. Donc cette intériorité, donc, ça me connecte à ma spiritualité. Donc effectivement, cette écriture, c'est ensuite un booster de ma créativité en général, puisque ça forme un tout. C'est-à-dire que je me connais mieux, donc je sais mieux ce à quoi j'aspire. Ça me donne envie de créer des choses, et ces choses, je les crée de façon fluide, parce qu'elles sont très connectées avec qui je suis.
J'adore cette idée que, du coup, quand tu parles de spiritualité, donc tu parles de ton intériorité, c'est comme ça que toi tu la vis, et que ça donne de la fluidité pour tes créations.
Exactement.
Qu'est-ce que tu penses, à contrario, qu'il se passerait, je trouve intéressant de creuser ce thème-là, si tu n'avais justement pas cette spiritualité ou cette connexion, du coup, à toi, en termes de création. Si on prend le sujet à l'envers.
Bien. En fait, je pense que j'aurais tout simplement la vie que j'avais avant. C'est-à-dire que je n'étais pas malheureuse, je faisais des choses que j'aimais, mais sans le niveau d'énergie et sans le niveau... Alors, il y a un mot qui est souvent utilisé, qui est très flou, et en fait, chacun va y mettre, mais le niveau de vibration, en fait. Ça peut être aussi le niveau de plaisir, le niveau de joie, le niveau d'épanouissement que ça me procure, tout simplement. C'est vraiment, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, cette sensation d'alignement. C'est pareil, c'est un terme qui est un peu galvaudé, je trouve. On dit il faut être aligné avec ses valeurs, il faut être aligné. Mais moi, si je l'utilise, c'est vraiment parce qu'il me semble extrêmement juste pour signifier ce que je ressens. Pour te prendre une image, quelque chose de plus imagé, j'ai vraiment l'impression d'être l'arbre avec ses racines, son tronc et ses branches qui se déploient. Et c'est vraiment ce sentiment-là, et que j'avais beaucoup moins avant. Et encore une fois, je ne veux absolument pas renier mon parcours, ce que j'ai fait, mes choix. D'abord parce que ça ne sert à rien. C'est fait, c'est mon histoire. C'est aussi ce qui m'a conduit à vivre ce que je vis aujourd'hui. Donc c'est partie intégrante de moi. Mais je sens évidemment la différence de ce que je vivais avant et de ce que je vis aujourd'hui.
Et alors, concrètement, tu l'as... Tu dirais quoi de cette différence, justement? Parce que c'est intéressant, tu parlais niveau de joie, niveau de vibration, niveau d'énergie, peut-être de justesse, peut-être même d'ancrage quand tu parlais de l'arbre.
Ouais.
Comment tu le ressens, toi?
C'est ça, c'est de me sentir à ma place, d'être... alors, de me sentir à ma place, mais malgré tout, toujours en chemin. C'est-à-dire que, certes, je suis ancrée, peut-être que, pour reprendre l'image de l'arbre, je suis bien enracinée maintenant. J'ai un joli tronc qui commence à pousser, mais par contre, les feuilles, c'est encore bourgeonnant. Parce que je pense qu'effectivement, en tout cas, c'est ma perception des choses, on n'est jamais arrivé au bout de ce chemin, de ce voyage. Et je sens que qu'il va encore évoluer, que cette créativité, cette intériorité, elle est en mouvement, mais tant mieux. Enfin, je cherche pas à figer les choses, et c'est ça qui donne aussi ce niveau d'énergie. Au quotidien, je me sens, donc je te disais, voilà, à ma place. Je me sens heureuse de ce que je fais. Forcément, ça me donne... j'ai un caractère, un tempérament plutôt très optimiste de base, mais ça me permet de lâcher prise et de vivre au jour le jour, ce qui en ce moment... je précise, on est en octobre 2020, on est en pleine période Covid. Peut-être ceux qui écouteront ton podcast dans 2 ans, ça ne sera qu'un mauvais et lointain souvenir, et je le souhaite. Mais aujourd'hui, je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche, j'ai une entreprise à faire tourner, parce que c'est ça la réalité. Et qu'évidemment, l'entreprise est impactée par le contexte économique. Mais le fait, moi, personnellement, d'être dans la démarche, dans les choix que j'ai faits, me permet d'aborder, je pense, quand même la situation. Alors, je ne vais pas dire détendue, parce que ce n'est pas le cas et qu'il y a eu plein d'impacts pas très chouettes. Mais en tout cas, je ne rajoute pas de l'angoisse et du stress, puisque je suis toujours au quotidien heureuse de faire ce que je fais, de transmettre ce que j'ai à transmettre et de continuer à le faire.
Ouais, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est qu'être à sa place, ça donne quand même une forme de sérénité, en fait.
Absolument, ouais.
Ça, c'est, je dirais en anglais, priceless, vraiment. Ouais. Ça n'a pas de prix, je crois.
Exactement.
Je te rejoins là-dessus. Alors, il y a un thème qui est central pour moi sur le sujet de la créativité. Et qui m'intéresse beaucoup, ce sont les obstacles et les peurs. Parce qu'il y a beaucoup de choses très chouettes dans tout ce qu'on a dit là. Et il y a aussi, je pense qu'on en a parlé souvent autour de café, toi et moi, le sujet de nos blocages, nos peurs. Quels ont été ces obstacles pour toi, Sophie? Quels sont-ils, d'ailleurs, encore aujourd'hui? Et comment tu fais face à ça? Peut-être comment tu faisais face à ça et comment aujourd'hui tu fais face à ça?
Alors, des obstacles, oui, évidemment. Des peurs, oui, évidemment. Pour moi, c'est un peu deux sujets différents. Donc, je vais d'abord te parler des obstacles. Mais en fait, les sujets sont différents, mais en tout cas, mon interprétation est la même. C'est que ce soit les obstacles ou les peurs, je me les génère moi-même. Ça, c'est clair.
Je crois que c'est peut-être une clé, d'ailleurs.
En réalité, en ce qui concerne les obstacles, donc j'ai 48 ans, je te dis que tout ce chemin a commencé il y a environ 5 ans, donc j'avais 43 ans. De mes 0 à mes 43 ans, personne, que ce soit dans ma famille, dans ma vie professionnelle, dans mes amis ou qui que ce soit que je connaisse, ne m'a interdit de créer. On m'a dit « Sophie, jamais tu vas créer ». Enfin, il n'y avait pas d'injonction extérieure à moi pour m'empêcher de faire ça. Donc forcément, il y a un moment, tu te dis, donc ça vient de moi. Et alors, pour contourner cet obstacle, je pense que pendant longtemps, je me suis servi de la technique et de mes compétences professionnelles, en fait, pour faire ce que j'avais à faire et créer ce que j'avais à créer en réalité, même si à l'époque je mettais pas ce mot là mais en fait c'était ça. Après maintenant si je prends maintenant la période d'aujourd'hui depuis 5 ans avec les jolis cahiers, les obstacles ont été levés quand l'envie a été la plus forte en fait. Parce que, ce que je te disais tout à l'heure, au-delà d'avoir l'envie de vendre des produits, j'avais des choses à partager. Et ces pensées limitantes sur est-ce que je vais y arriver, etc., à un moment, elles sont levées parce que justement, l'envie est forte. Parce que je relativise un peu les enjeux aussi. Par exemple, pour prendre un exemple concret, quand j'étais en train de travailler à la création des jolis cahiers, alors là, la création en tant qu'entreprise, le côté juridique, tout ce qui est stratégie marketing, stratégie produit, etc., j'avais commencé à écrire des textes un peu perso sur l'écriture, sur mon aventure entrepreneuriale. Et j'avais beaucoup de mal, j'hésitais beaucoup à publier ces textes. J'en avais envie, mais à la fois, il y avait des obstacles qui m'empêchaient de le faire. Et ce qui m'a permis de sauter le pas, c'était aussi de relativiser l'enjeu. C'est-à-dire que je me suis dit, tu vas pas envoyer le texte à tous les êtres humains de la Terre sur leur smartphone. Alors qu'en réalité, si, un peu, parce que c'est sur le web. Mais je me suis rassurée en me disant que non. Et aussi, et ça c'est primordial, à un moment je me suis dit, peut-être ça va être utile à quelqu'un, même à peut-être à une seule personne. Ce que tu vas raconter de toi, de ton parcours, même s'il y a des gens qui pensent que c'est égocentré, même s'il y a des gens que ça n'intéresse pas, même, peu importe, passe cet obstacle de ces pensées limitantes et fais-le. Je l'ai fait. Alors effectivement, la Terre n'a pas tremblé. J'ai pas reçu des tombereaux d'insultes. Et surtout, j'ai des personnes qui m'ont renvoyé des messages en me disant « ça m'est utile ». Et là, le booster de créativité, là, ce qui te permet de passer les obstacles, c'est ça. C'est quand en face de toi, ne serait-ce qu'une personne te dit « ce que tu fais, ce que tu crées, ça m'est utile ». Donc là, forcément... Tu passes un cap. Après, la question des peurs. Alors oui, évidemment, j'ai peur. Oui, bien sûr, j'ai peur. Mais en réfléchissant un peu, mes peurs, elles avancent masquées, un peu comme fantômettes. Et moi, mes peurs, elles s'appellent Mademoiselle Procrastination. Elle s'appelle Madame Perfectionnisme. Et puis, le fait aussi de chercher toujours des tonnes d'informations sur un sujet, d'avoir envie de lire, de voir des choses. En fait, tout ce qui va me permettre de reculer le moment de passer à l'action, à la création. Donc déjà, effectivement, une prise de conscience, c'est important. Et... si tu veux que je te donne un exemple concret...
Avec plaisir.
C'est encore au sujet de l'écriture, je suis désolée. Cette envie d'écrire, elle me tenaille de plus en plus. Donc, j'écris beaucoup pour moi, de l'écriture plutôt introspective, mais faire quelque chose de cette écriture ou écrire de la fiction, c'était jusqu'à il y a quelque temps pas trop mon truc, mais voilà, je sens qu'au fond de moi il y a une espèce de force créatrice justement qui est là. Et alors je sais pas ce que je vais écrire ni quoi ni ce que je vais en faire, mais peu importe, c'est là. Et au lieu d'écrire, au lieu de passer du temps à écrire,
tu fais des podcasts?
Non, ouais, je me disperse. Non, mais pire que ça, je gaspille du temps, parce que alors là, c'est, enfin, je veux dire, le temps, il est précieux. On a quand même que 24 heures dans une journée. Moi, j'aime faire plein de choses. Donc, j'ai pris conscience que je gaspillais mon temps à écumer les librairies pour trouver des livres sur comment écrire. Non, mais tu vois le côté absurde de la chose. Donc, il y a un moment, dans un de ces fameux livres que j'ai lu, qui est le livre de Stephen King. Je n'aime pas du tout son genre littéraire, mais par contre, il a écrit un livre qui s'appelle Écriture, qui est très bien. Et à un moment, je ne sais plus comment il dit ça, mais en gros, ça veut dire que ce n'est pas parce que vous dites que vous voulez écrire que ça fait de vous quelqu'un qui écrit. La seule façon de l'être, c'est de le faire. Et là, non mais le truc, là, la palissade, quoi. Mais, et là, à un moment, tu te dis, non mais Sophie, c'est clair, fais quelque chose. Et donc, j'ai décidé de passer à l'action et donc je me suis inscrite à un atelier d'écriture parce que j'avais besoin d'une petite béquille. Tu vois, encore ces peurs, ces freins, toujours la même chose. Sans doute, je ne me sens pas capable de le faire seule. Donc, je passais à l'étape où j'ai lu des livres. Et là, je suis passée à l'étape où je me suis inscrite et j'ai fait un atelier d'écriture parce que je voulais me mettre au pied du mur et aussi vérifier que cette envie de créer par les mots, est-ce qu'elle était réelle ou est-ce que c'était un fantasme ? Parce que ça peut être ça aussi.
Donc ça, c'est un petit pas que tu as fait.
C'est un petit pas que j'ai fait et qui s'est très bien passé puisque j'ai réussi à écrire tous les jours pendant une semaine sous contrainte. Alors, c'est pas que j'avais un couteau sous la gorge, mais j'avais un cadre, un timing, un thème. 45 minutes pour écrire, c'est... Voilà, faut... Justement, de la contrainte naît la liberté. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu n'as pas le temps de te laisser envahir par tes pensées limitantes. Tu es dans un groupe de 10 personnes. Dans 45 minutes, il va falloir lire à tout le monde ce que tu as écrit. Ben, soit tu vas passer... tu te dis, mince, je vais avoir page blanche. Et c'est juste pas possible. Enfin, en tout cas, moi, je ne le voulais pas. Donc, tu te jettes à l'eau. Et en réalité, ben, c'est ce que tu dis. C'est plaisir. Enfin, moi, j'ai vécu ma meilleure vie pendant une semaine, là.
Ah, mais génial. Oui, c'est tout frais, hein. Ouais, c'est ça frais, c'était en septembre à Paris.
Ouais. Donc, voilà. Okay. Mais c'est... passer le cap, les peurs, c'est effectivement en prendre conscience, les identifier et puis les soigner par l'action aussi, quoi. Encore une fois, là, cette conversation, là, dans un cadre aussi contraint de temps, c'est condensé tout ce que je te raconte. Je ne voudrais pas que ceux qui vont écouter se disent « Non, mais ça a l'air trop simple, en fait. » Non, mais je veux dire, c'est aussi des affres, des réflexions, des nœuds au cerveau, des années. Voilà, là, je te parle des peurs, mais voilà, c'est des choses qui hantent parfois et qui sont vraiment... qui bloquent vraiment, justement, l'action. Alors après, moi, mon tempérament fait que ça me bloque dans l'action, mais ça ne me déprime pas, ça ne me paralyse pas. Mais c'est bien là. Et je pense que personne, enfin, je ne veux pas préjuger de ce qui se passe à l'intérieur de chaque être humain, mais je pense que personne n'est épargné, même si certains ont une aptitude à le dissimuler ou à vivre avec de façon plus forte que d'autres. Mais rien n'est simple. Et chacun doit, enfin chacun doit, c'est même pas doit, chacun peut ou pas avancer à son rythme, choisir d'aller dans une voie ou dans une autre, et rien n'oblige personne à se mettre sur ce chemin. J'aurais pu continuer ma vie comme avant, je suis absolument pas dans l'injonction du « il faut mieux se connaître, il faut chercher à faire de l'introspection ». Non, encore une fois, c'est mon vécu.
Oui, c'était un élan pour toi. Non, ouais. On ne fait pas de prosélytisme ici. Par contre, on est passionné par le sujet. Mais effectivement, enfin, c'est pour ça qu'on disait, pour finir sur le sujet de la peur, même si on pourrait en parler pendant des heures, pour moi, il est central, parce qu'effectivement, ce n'est pas simple d'oser créer quelque chose qui nous plaît vraiment, qui nous fait vibrer. Et c'est pour ça que tous ces vécus-là avec ce podcast, c'est intéressant parce que ces vécus donnent des idées, c'est pas forcément copiable, mais de déclencheurs de choses qui ont pu se passer concrètement et qui ont été actionnées par tout un chacun. Donc, moi, ce que j'entends quand même, pour résumer, c'est qu'à un moment donné, il y a eu l'envie de faire des choses qui étaient là, et ça, c'est quand même la base. S'il n'y a pas l'envie, c'est quand même compliqué. Et puis, quelle peur à les dépasser s'il n'y a pas l'envie. Et puis, il y a ce passage à l'action. Et il y a quand même des prises de conscience. Alors moi, je trouve ça intéressant, juste pour revenir sur qu'est-ce qui a fait que tu es allé, tu as décidé de te mettre dans l'action sur ce stage d'écriture, même si c'est un premier pas. C'est vraiment ce bouquin de Stephen King, enfin, où il y a eu d'autres choses, où... Qu'est-ce qui a déclenché l'action, quoi.
Cette phrase, et puis... Et puis, pour tout te dire, c'était pendant mes vacances au mois d'août. Donc, c'est vraiment tout frais. c'est qu'à un moment, j'ai commencé à chercher des stages d'écriture. Donc, j'ai lu cette phrase, j'ai commencé à regarder. Puis, je me disais, je me mettais d'autres freins. Non, mais c'est pas possible. Tu dois t'occuper des jolis cahiers. C'est à Paris. T'as pas le temps. Est-ce que c'est bien le moment? Et puis, vraiment, à l'heure de la sieste.
La sieste de bon conseil.
La sieste du mois d'août, là, quand il fait chaud dehors et que toi, tu es au frais. Vous y êtes, là, c'est bon. Et à un moment, là aussi, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, non, mais toi, t'attends d'être morte? Non, mais vraiment, je me suis dit ça. Vraiment. Je me suis dit, t'attends d'être morte pour faire ce que t'as envie de faire. Je me suis dit, il sera trop tard. Tout ce que tu as en tête sur ce sujet-là, là, tous les obstacles ou les freins, les peurs, c'est juste du matériel, c'est de l'organisation. En fait, il n'y a rien qui t'empêche de partir faire ce stage d'écriture pendant une semaine, de t'organiser. C'était pas toute la journée, je pouvais travailler le matin, une connexion Wi-Fi, un ordinateur portable et hop, c'est parti. Mais so what? Oui, bah vas-y, fais-le. Et je l'ai fait là. Mmh. Je me suis levée, je suis allée chercher ma carte bleue, je me suis inscrite, j'ai payé. Et là, je me suis dit, waouh, génial. Oh,
j'ai des frissons. Franchement, j'ai des frissons. J'adore. Bah, ça me fait une bonne transition avec une question que j'ai envie de te poser. C'est quoi, justement, on parlait de, disons les mots, hein, de mort et de faim, pas attendre qu'on soit mort pour faire les choses. C'est quoi le message que toi, tu as envie d'oser clamer haut et fort aujourd'hui, Sophie, que peut-être t'oses à peine, mais que tu as envie de dire plus fort parce que tu te dis, bah ça, faut vraiment le passer, ce message, en fait.
Alors, je l'ai déjà un peu effleuré au cours de cette conversation, mais c'est vraiment l'audace d'être soi. Alors, l'audace, parce que je t'ai dit tout à l'heure que c'était un de mes mots préférés, et je pense que, évidemment, ce n'est pas un hasard. Et parce que être soi, c'est ce qui, pour moi, permet vraiment de vivre toutes ces sensations, ces expériences dont on a un petit peu parlé. Et quand on a la chance de goûter à ça, mais on a envie que c'est compliqué à expliquer, que tout le monde vive ça. Alors, encore une fois, je suis en train de lire le dernier bouquin de Julia de Funès, Développement impersonnel, qui est très intéressant parce que je la rejoins sur beaucoup de choses qu'elle dit, et justement cette injonction à être soi, elle est nulle et non avenue. C'est pas possible, tu peux pas dire aux gens « soyez vous-même ». Ça ne marche pas, non mais... Voilà, et surtout en utilisant des méthodes identiques pour tout le monde, alors que chacun est seul et unique et singulier. Moi, le message, c'est vraiment juste... C'est pas obligé de le faire, on n'est pas obligé de vivre comme ça, mais c'est juste à un moment, si on sent qu'il y a une petite étincelle, quelque chose qui est en train de s'allumer, c'est juste d'écouter ça, de lui laisser un petit peu de place et de voir ce qui se passe.
Je reprends le sujet de la fin de vie parce que j'aime bien. Tu auras envie qu'on dise quoi de tes accomplissements à la fin de ta vie, Sophie? Osons.
Attends. Alors déjà, on est en plein égo trip depuis le début de cette conversation. Alors là, c'est le summum, mon épitaphe, ma chronique dans les journaux quand je serai morte. Non. Je ne sais pas. Ouais, en fait, je trouve ça. C'est très compliqué pour moi de répondre à cette question, en fait. Je trouve ça hyper. Je trouve ça hyper prétentieux. Enfin, en tout cas, peut-être que je me trompe ou je ne mets pas les bons mots. Par contre, ce que j'aimerais, quand même, c'est plutôt que les gens remarquent que je ne suis plus là, dans le sens où je ne fais plus ce que je faisais. Donc, ça veut dire que j'avais une utilité. Voilà. Plus que dire des choses de moi, c'est juste que l'absence fait dire « Ah mais oui, mais en gros, elle servait à quelque chose. » Ce qu'elle faisait dans la vie, que ce soit ma vie professionnelle, personnelle, amicale, peu importe. Mais c'est pas l'absence parce qu'on va me pleurer et voilà. Non, c'est juste ah mais oui, mais oui, c'était Sophie qui faisait ça et voilà, elle est plus là, elle le fait plus. Voilà, c'est cette notion de peut-être d'utilité, de servir à quelque chose.
C'était quelque chose que tu avais déjà en tête, cette notion d'utilité ? C'était déjà conscient ?
Je ne sais pas. Peut-être, mais pas aussi consciente. Alors, je vais aussi te dire, je vais remettre les choses à leur place. Hein. Quand je te parle d'utilité, c'est pas l'utilité pour sauver la planète. Enfin, je pense que... En fait, si, oui et non. Excuse-moi, c'est pas clair.
C'est pas grave, le thème est pas simple.
C'est-à-dire que parce que je fais au quotidien, par qui je suis et comment j'exprime qui je suis, là, concrètement, à l'instant T, ça va pas sauver la planète. Mais par contre, je crois que si chacun était un peu plus proche de qui il est vraiment, ça peut faire du bien à la planète. Je sais pas si je suis claire.
J'adore. Ouais. Complètement ouais. En phase avec ça. Moi, là-dessus, sur cette, juste un mot sur cette question qui, effectivement, peut sembler complètement égotrip. On a eu beaucoup de conversations avec mon associé de Club Culotté sur le sujet. J'aime bien l'idée de tracer un peu, tiens, de se dire, mais c'est quoi mon désir ? Et de dire à partir de là, ben, quelle stratégie ou quel chemin d'action je vais avoir pour y aller. Et force est de constater quand même que le sujet de la fin de vie permet de faire un peu cette espèce de réveil sur ce que un peu t'as dit tout à l'heure finalement. Ben, j'ai peut-être pas 107 ans pour faire les choses que j'aime finalement et être un peu plus moi. Donc c'est en ça que je trouvais intéressant de t'interroger sur cette chose-là et de voir ce que ça fait comme barrière, comme résistance en termes d'ego, justement, se dire ah non, mais c'est encore parler de moi et c'est me donner trop d'importance. Et peut-être qu'en fait, c'est ça qu'il faut dégoupiller aussi, ces résistances-là.
Tu vois, ce que tu dis, ça me remet en mémoire hein, une anecdote. Je ne sais pas si j'ai le temps de te la raconter.
Si, ouais. Si, vas-y, avec plaisir.
C'était, il y a au moins 8 ans, donc c'était bien avant tout ça. J'ai suivi une formation dans le cadre professionnel, une formation dans un grand organisme de formation parisien pour rendre les cadres plus efficaces. Et je suis tombée sur une super formatrice, pour le coup, qui nous a fait faire des exercices, et notamment un exercice d'écriture. Et dans cet exercice d'écriture, justement, on se positionnait à la fin de notre vie. Il fallait fermer les yeux, et en fait, elle nous racontait une petite histoire, et alors, on n'était pas morts, mais on fêtait notre 95e anniversaire. Et en fait, on devait convoquer dans notre tête tous les gens qui venaient nous délivrer un message pour ce qu'on leur avait apporté dans la vie. Et en fait, tu vois, ça vient de tilter parce que on l'a fait deux fois, cet exercice, hein, de façon un peu inconsciente au début et puis plus conscientisée une deuxième fois. Et je me suis aperçue que je n'avais pas convoqué les bonnes personnes. Non, mais venaient dans mon 95e anniversaire, donc c'est quand même un événement personnel, j'étais extrêmement entourée de gens de mon univers professionnel. Et ça m'a vraiment interpellée, justement. Et peut-être ça a été le prémisse de ce sentiment d'utilité justement dont tu parlais, puisque je voyais bien que en fait tout mon univers relationnel était loin d'être présent dans cette réflexion et que ça m'a posé un problème. Mmh. Et ça, je l'ai raconté dans un article que j'ai écrit sur mon blog. J'ai vraiment là commencé à prendre conscience. Mais ça, je le sais maintenant avec le recul. Hein. Sur le coup, j'en ai pas du tout pris conscience. Et c'est vraiment l'expression que j'avais lue dans un bouquin. Je sais plus lequel qui m'est venu à l'esprit. C'est que je n'avais pas appuyé l'échelle de ma vie sur le bon mur.
Waouh. Voilà. Nouveau frisson. Alors, on arrive à la fin de notre échange, Sophie. As-tu, pour nos auditrices et auditeurs, trois ressources qui, toi, ont eu vraiment un impact dans ta vie, justement, sur cet aspect spiritualité et créativité ?
Alors, il y en a sans doute plein. La première qui me vient, et j'en ai, j'ai dit tout à l'heure que j'en parlerai, c'est Libérer votre créativité de Julia Cameron, parce que, alors, il y a plein de choses qui me plaisent pas dans ce bouquin, vraiment. Mais c'est comme la pizza, c'est pas parce que tu n'aimes pas les olives que tu jettes toute la pizza.
J'avais jamais vu cette comparaison. Excellent.
Donc, j'ai enlevé les olives et j'ai gardé ce qui m'intéressait. Non, mais franchement, voilà. Bon, ça, c'est quand même... je pense que quand on s'intéresse au sujet de la créativité, on en fait ce qu'on en veut de ce livre et il faut faire abstraction de, encore une fois, ce qui ne plaît pas. Mais voilà, c'est quand même important, je pense, intéressant de le lire. Et c'est lui qui m'a quand même mis sur la voie de ma routine d'écriture du matin.
Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait. C'était en référence à ce bouquin. Ouais.
Un deuxième bouquin...
Ça peut être autre chose que bouquin.
Ouais. Non, là, j'ai autre chose qui me vient en tête, mais je le garde pour ma troisième ressource, parce que ça n'a rien à voir. Deuxième bouquin, c'est L'apprentissage du bonheur de Tal Benchar. Il est professeur à Harvard. Alors, là aussi, on peut apporter la critique que bon, c'est à la mode américaine, on parle de développement personnel, mais néanmoins, il y a des choses intéressantes. Dans ce livre, il parle de son expérience. Moi, j'adore des livres, des podcasts ou quoi que ce soit, des vidéos quand il y a du vécu, de l'expérience, parce qu'effectivement, je trouve que c'est comme ça qu'on avance, comme tu le disais tout à l'heure. Et c'est pour ça que je passe le pas d'avoir une conversation très égocentrée avec toi pendant ces minutes, parce que je me dis que peut-être que ça peut servir à quelqu'un. Et ma troisième ressource, alors là, qui n'a rien à voir, c'est une ressource plus générale. C'est pas forcément pour travailler ma créativité en tant que telle, mais c'est quelque chose qui me met en joie, qui me met de bonne humeur, c'est regarder des comédies musicales. Et j'adore les comédies musicales, Chantons sous la pluie, My Fair Lady, mais une de mes préférées qui n'est pas la plus connue, c'est Victor Victoria de Black Edwards. Et si vous ne connaissez pas ce film, en plus il a c'est joyeux, c'est en même temps il y a du fond sur l'identité homme-femme, ça participe à me mettre sur la voie de la créativité.
Ok, merci pour ça. Alors là, c'est la dernière question. la question surprise, c'est tout simplement, est-ce qu'il y a une question que tu aimerais que je te pose, Sophie ? Si oui, laquelle ?
Oh là là ! Tu es dure,
de prendre
tu es
ton
vache
temps.
Une question que j'aimerais que tu me poses. Écoute, alors c'est vraiment la chose vraiment très spontanée qui me vient en tête, qui est basique, mais je sais que si tu me poses cette question, tu vas me la poser avec vraiment beaucoup d'intention et de sincérité, c'est comment vas-tu ? Parce que combien de fois on pose cette question ? Mais moi y compris, ça m'arrive, hein, je ne me pose pas en donneuse de leçons, parce que c'est une formule courante, et que l'on n'attend ni réponse sincère et qu'on est dans une formule convenue. Donc tout simplement, comment vas-tu avec beaucoup d'intention ?
Alors Sophie, comment vas-tu ?
Je vais très bien, merci Nathalie.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Juste une chose avant, pour te retrouver Sophie, ou te retrouver, retrouver les jolis cahiers, on fait comment ?
Alors, ben, pour me retrouver, on tape Sophie Péan sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, ou les jolis cahiers, aux mêmes endroits, l'un ou l'autre. De toute façon, c'est moi qui suis derrière tout ça, donc voilà.
Eh bien, merci Sophie.
Merci
pour
Nathalie.
Ta bienveillance, ta fraîcheur, ton intention et ce moment d'intimité.
Merci Nathalie, à bientôt.
À bientôt. Merci infiniment à Sophie pour ce deuxième épisode de Créez-moi sur parole. C'est toujours un acte de courage de se livrer sur des sujets si proches de l'intimité. C'était une nouvelle fois un moment privilégié pour moi et j'espère qu'il vous aura inspiré à vous aussi oser exprimer votre singularité. Avec Créez-moi sur parole, l'objectif, c'est de diffuser une parole vraie, qu'elle ait une certaine utilité. Alors si vous avez aimé cet épisode, pour justement ne pas se noyer, tels des narcisses des temps modernes, dans des égotripes futiles et stériles, L'idée, c'est de le partager ou mettre des petites étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Osons aller à la rencontre de nous-mêmes, osons l'ambition, créons et prenons notre pied.